Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
RMC, il est presque 7h. Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Une douloureuse reconstruction commence en Gironde, dans la commune du Porge. Des psychologues au chevet des sinistrés, alors que dans le Var, c'est la piste intentionnelle que privilégie le parquet pour expliquer la reprise du feu. Nous serons aussi dans le Jura, où à cause de la sécheresse, un village est obligé de se faire livrer de l'eau potable. Et Thomas Ramos sera bientôt un joueur du Racing 92. C'est officiel, l'arrière du 15 de France s'apprête à vivre sa dernière saison sous les couleurs du Stade Toulousain.
Clara, un difficile retour à la vie d'avant pour les sinistrés de Gironde.
Certains ont retrouvé leur maison intacte, d'autres sont en pleine démarche administrative auprès des assurances. L'incendie est fixé depuis plusieurs jours. Le traumatisme, lui, est omniprésent pour certains, notamment les habitants du Porge où 183 maisons ont été détruites. Dans l'école primaire de la commune, une cellule d'urgence médico-psychologique est disponible pour aider les familles à avancer et en particulier les enfants, Luc Allobert.
À la maison, Jonas, 9 ans, ne peut s'empêcher de parler de l'incendie, des maisons des voisins et d'amis, pour certaines touchées par les flammes.
On a des copains où leur cabanon, il était en fer et on ne sait pas comment il est fendu, mais on ne l'a pas vu.
C'est pas toujours évident d'aborder la réponse à ces questions.
Oui, c'est ça.
Ah oui, moi j'en ai une.
Le petit frère Maxence lève le doigt.
Il y a deux copains que leur maison ont brûlé.
Et toi, ça t'a fait quoi?
Je sais pas.
C'est donc pour les aider à parler que Jérôme, leur père, les a emmenés ici, dans l'école, à la place des professeurs, des psychologues.
Chacun d'entre nous a été entendu individuellement. Ils sont très conciliants, à l'écoute, et ça fait du bien d'en parler.
Ça aide aussi à utiliser les mots justes avec les enfants, selon lui.
On leur a expliqué qu'on ne joue pas avec le feu, que ça peut être très grave, et qu'on les a protégés au maximum en essayant de s'éloigner des feux, tout simplement.
Lui aussi a pu parler, maintenant il regarde devant.
Il faut avancer, donc on laisse les choses derrière pour avancer dans la vie. Pour rebâtir un nouveau port.
Pouvoir aider ses proches plus durement touchés aussi, et grâce au soutien psychologique, savoir comment leur parler.
Reportage de Luc Allobert, l'un de nos envoyés spéciaux en Gironde, où pour tous les salariés des TPE et PME évacués comme ceux des Landes, l'État va prendre en charge intégralement les indemnités d'activité partielle, annonce le ministère du Travail. Dans le Var, la reprise du feu vendredi dernier pourrait être intentionnelle, selon le parquet de Draguignan, qui dit envisager sérieusement cette hypothèse des mises à feu volontaires, qu'a aussi dénoncé le préfet du Var, Simon Babre.
Il y a encore des incendiaires qui se sont manifestés avec un départ de feu dont l'origine volontaire est peu contestée. C'était sur Montfort-sur-Argence. Et puis, de nouveau, un autre départ de feu avec une origine volontaire du côté de Barjol. On sait que nous avons un problème d'incendiaire, que nous avons besoin de tenir la zone, d'éviter que des candidats incendiaires puissent se présenter, notamment dans les jours qui viennent, qui sont des jours à haut risque.
Le préfet du Var qui indique également que la journée d'hier a été plus calme que les précédentes. Dans la Drôme, les pompiers luttent aussi toujours contre les flammes. 280 hectares partis en fumée autour de Bellegarde en Diwa. Deux pompiers ont été légèrement blessés. Des conditions météo défavorables attendues aujourd'hui.
Et notamment à cause de la chaleur, vigilance orange, canicule dans 10 départements du Sud-Est.
Alors que la France est déjà frappée de plein fouet par la sécheresse, le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré, annonce Météo France. Et dans plusieurs régions, la situation est critique. Dans le Jura, à Villars-Saint-Sauveur, la mairie a dû affréter un camion-citerne pour éviter la pénurie d'eau potable. Le reportage de Vincent Chevalier.
Tant bien que mal, le camion-citerne tente de se frayer un chemin jusqu'au château d'eau de la Pérouse. Pour la première fois de l'été, il faut remplir la cuve avec l'eau du village voisin. Le hameau de Villars-Saint-Sauveur risque la pénurie.
Aujourd'hui, donc, nous avons 1,77 m d'eau.
Alain Rinaldi, le maire de la commune.
Le réservoir, on peut aller jusqu'à 4 mètres. On a un point critique, voilà, on arrive au fond du réservoir, parce qu'après, ça va très vite, quoi. Il suffit qu'il y ait une grosse consommation pendant un jour ou deux, puis là, on ne peut plus.
Une livraison de 32 mètres cubes qui sera vite épuisée par les résidents rejoints pour les vacances, par leurs proches et par des touristes. Stéphanie a rejoint la maison de famille il y a quelques jours.
Toute petite,
je me baignais dans la fontaine coulait à flot. C'est vrai que sur les toutes dernières années, on ressent vraiment que c'est de pire en pire, quoi. Là, la fontaine, elle coule plus. C'est un peu triste, quoi, et ça fait un peu peur.
Désormais, chacun ici sait que l'eau est plus précieuse qu'ailleurs et qu'il faut faire attention.
On peut pas non plus s'empêcher de vivre. On a deux enfants assez jeunes. Faut se laver. Faut aussi se rafraîchir comme on le peut.
Une opération très coûteuse pour la commune. 1 500 euros, sans compter le prix de l'eau facturé un peu plus tard.
Et ces chasses historiques, on vient de l'entendre, Clara, et dans un instant, Jean-Claude Guéhennec, qui est le vice-président de Légumes de France, sera avec nous parce que les maraîchers sont en crise.
Une personne activement recherchée par les secours en Haute-Savoie après avoir été emportée par les eaux à Sixte, fer à cheval, près de Samoin. La rivière a débordé après un violent orage et a provoqué une coulée de boue. Une dizaine de personnes ont été évacuées par hélicoptère. Le chef cuisinier Jean Humbert a passé la nuit au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, transféré hier soir après que sa garde à vue a été levée. Le vainqueur de Top Chef, visé par au moins 3 plaintes de ses ex-compagnes pour violence conjugale.
Dans la Manche, un sauvetage d'une rare ampleur.
Plus de 170 migrants secourus au large de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Aucune victime n'est à déplorer, Victor Girard. Ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni et leur embarcation a pris feu.
173 migrants entassés les uns sur les autres à bord d'un small boat, ces embarcations gonflables de fortune. Mais cette fois, ce qui change, c'est la taille du bateau, bien plus grand que d'habitude, parti lundi des côtes normandes. Alors qu'il approche des eaux britanniques, son moteur prend feu, un incendie qui oblige les passagers à se jeter en pleine mer. C'est à ce moment-là qu'un important dispositif de secours est déployé, des navires français mais aussi britanniques mobilisés pour les ramener à terre. Une opération hors norme, explique Théo Lamblin, bénévole à la protection civile.
Le nombre est assez conséquent. D'habitude, on peut intervenir pour un dispositif de 13 personnes. Donc le nombre est plus réduit. Ici, là, ça fait prendre de l'ampleur au dispositif.
Alors, arrivés sur le quai de Boulogne-sur-Mer, les exilés sont conduits en bus vers des centres d'accueil et suivis par des associations, dont Utopia 56. Angèle Vettorio, sa coordinatrice, alerte sur l'évolution des traversées.
On voit de plus en plus des plus grandes embarcations avec plus de personnes à bord. Et ce qu'on craint, c'est que ça soit une dynamique qui arrive de plus en plus dans le futur, avec toujours le risque de mourir en mer.
La coordinatrice d'Utopia 56 s'inquiète notamment de la présence de plus en plus fréquentes de femmes et d'enfants à bord de ces embarcations par rapport aux années précédentes.
Une nouvelle menace de Donald Trump. Les Iraniens seront frappés très fort si le détroit d'Ormuz n'ouvre pas rapidement. Déclaration faite ce matin à la chaîne Fox News. Il ajoute que pour le moment, les pourparlers ont bien avancé et assure que Téhéran voulait passer un accord. C'est un été assez compliqué pour les usagers des transports parisiens. Le réseau de la capitale en plein travaux. Le maire insoumis de Saint-Denis, Bali Bagayoko, demande à la RATP et la SNCF des solutions concrètes pour pallier ces interruptions sur certaines lignes, notamment le RER B qui dessert l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a certes moins de monde grâce aux vacances, mais Alexandre Thibault, et vous l'avez constaté par vous-même, pour ceux qui travaillent, c'est une vraie galère.
À peine sorti du bureau, Cyril a les yeux rivés sur les horaires de train sur son portable.
Les applications sont les amis du forçat des transports. Mon prochain RER est à 19h07.
Ce chef de projet informatique prend normalement le RER B de Massy-Palaiseau jusqu'à Gare du Nord pour rentrer chez lui en Seine-et-Marne. D'habitude 1h20, mais cet été avec les travaux sur le RER B, c'est 2h05 changements.
Les correspondances sont très courtes entre chaque transport, donc ça m'arrive souvent de courir.
Première étape, le tramway, il arrive, mais 3 arrêts plus tard.
Donc là, il est 18h55, on est bloqué à Chilly-Mazarin. Je crains que le 19h07 ne passe au nez.
Cyril sort de la rame, désabusé, et court prendre un bus. Il arrive chez lui 3 heures après être parti. Travaux, renouvellement de voie, maintenance, un périple que Robin.
Pour être au travail à 8h30, je dois partir de chez moi à 6h moins le quart.
On a assez de subir quotidiennement.
Aujourd'hui, ce qui est difficile à accepter, c'est d'avoir l'impression de payer toujours plus cher alors que les conditions de transport restent très compliquées. Moi, je suis fatigué, je suis énervé. Je suis écœuré par cette situation.
Et Robin et Cyril vont devoir être patients. Des travaux sur une autre portion de la ligne sont prévus à partir de vendredi.
Le reportage d'Alexandre Thibault. Un préavis de grève chez EasyJet pour le mois d'août et jusqu'à début septembre. Des stewards et hôtesses de la compagnie low cost dénoncent une dégradation continue de leurs conditions de travail.
Clara, en rugby, Thomas Ramos s'apprête à vivre à sa dernière saison, déjà sous les couleurs du Stade Toulousain.
Et oui, c'est officiel. L'arrière du 15 de France rejoindra les rangs du Racing 92 la saison suivante en 2027. Wilfried Templier, les deux clubs l'ont confirmé.
Oui, un communiqué du Stade Toulousain tout d'abord, dans lequel Thomas Ramos a parlé d'une décision difficile à prendre, mais aussi de respect, de reconnaissance et d'attachement envers son club de toujours. De son côté, le président toulousain Didier Lacroix évoque un départ jamais anodin, mais qui fait partie de la vie d'un club. De cette façon, les deux parties ont désamorcé cette bombe pour mieux se tourner vers la dernière saison de Ramos à venir. 200 matchs en rouge et noir et meilleur réalisateur de l'histoire du club. Mais pas sûr pour autant que cette séparation ne laisse pas de traces chez le joueur et le club. Quoi qu'il en soit, le Racing 92 peut se frotter les mains. Après la Coupe du Monde en Australie, il va récupérer un des tout meilleurs joueurs français qui reste un compétiteur hors norme après avoir déjà tout gagné avec Toulouse.
En football, l'OL partira avec un point de retard la semaine prochaine au Groupama Stadium, battu hier soir 2-1 par le Sparta Prague au match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. La déception de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France femme, elle est un peu plus de 2 minutes de retard désormais sur le chrono, battu au terme d'un contre-la-montre remporté par la Suissesse Marlène Reusser, aujourd'hui 5e étape dans le Beaujolais. Et puis c'est un nouveau tournoi auquel ne participera pas Carlos Alcaraz, le numéro 2 mondial de tennis devait revenir à la compétition pour le Masters 1000 de Cincinnati, mais l'Espagnol est toujours gêné par sa blessure au poignet.